Auditeurs de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle, les Chroniques Amnestiennes, émission sur les droits humains dans le monde. Aujourd'hui, Pascal, Patricia, Jean-Michel animeront l'émission. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à tous nos auditeurs. La première partie de notre émission sera consacrée à la sortie, le 7 avril, du rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde 2020-21. Ce rapport annuel, disponible pour tous en ligne sur le site amnesty.fr, fait le point sur cette situation dans tous les pays du monde. C'est notre nouvelle secrétaire générale, Agnès Calamard, nommée pour 4 ans depuis le 29 mars, qui en a rédigé la préface. Nous vous présenterons Agnès Calamard et vous communiquerons quelques messages clés qu'elle a voulu passer dans cette préface. Nous focaliserons ensuite sur la situation en France telle qu'elle est résumée dans ce rapport. 5 points essentiels à retenir que nous exposerons. Après une pause musicale, nous reviendrons sur la situation de Alexei Navalny en Russie. Sa santé se dégrade. Il est urgent d'agir pour qu'il ait accès à des soins et qu'il soit libéré. Une bonne nouvelle, un représentant de l'État syrien a été condamné pour crime contre l'humanité en Allemagne. L'occasion aussi de faire un point sur 10 ans d'un conflit désastreux en Syrie. Un réfugié tchétchène a été renvoyé illégalement en Russie. Ce réfugié doit être rapatrié en France. Nous vous proposerons d'interpeller le président de la République française. Enfin, nous terminerons en vous rappelant quelques rendez-vous possibles, malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire. Voilà, donc, comme nous vous le disions, Agnès Calamard a été nommée secrétaire générale d'Amnesty International le 29 mars. C'est une éminente spécialiste des droits humains. Nous reviendrons sur son curriculum vitae ensuite. Et elle devient donc, à compter de ce jour, la nouvelle secrétaire générale de toute l'organisation Amnesty International, qui est basée à Londres pour le siège. Voilà.
Alors, Agnès Calamard a été rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. À ce dernier poste, elle a dirigé des enquêtes sans précédent, notamment sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. En tant que secrétaire générale, Agnès Calamard sera la directrice générale du secrétariat international d'Amnesty International et la principale porte-parole de ce mouvement mondial qui comporte 10 millions de sympathisants et des bureaux dans plus de 70 pays.
C'est elle qui parle. À l'heure où les droits humains sont soumis à des pressions sans précédent dans le monde entier, Agnès Calamard va diriger et motiver et fédérer l'ensemble du mouvement d'Amnesty International pour lui permettre de prendre ses défis à bras le corps, à déclarer. Non, c'est pas elle qui parlait, c'était Sarah Bimich,
du bureau,
présidente du bureau exécutif international, en annonçant cette nomination. Son acuité intellectuelle, je suppose qu'elle reparle d'Agnès Calamard, combinée à sa profonde expérience en matière de droits humains et à son courage quand il s'agit de faire entendre sa voix, font d'elle une personne hautement qualifiée pour diriger notre mouvement. Nous nous réjouissons qu'elle ait accepté ce défi de nous conduire avec audace vers la période qui nous attend.
Voilà. Alors, la secrétaire générale est nommée par le bureau exécutif international d'Amnesty International pour un mandat de 4 ans. Il faut savoir qu'il y a un bureau international, mais c'est les gens qui font partie du bureau sont dispersés dans le monde entier, donc se réunissent par visio, etc. Ouais. Mais de fait, le secrétaire donc, qui est basé à Londres, c'est lui qui finalement gère tout ça, quoi, hein, d'accord, organise nos actions. Alors Agnès Calamard, de nationalité française, faut le noter, a effectué une carrière prestigieuse dans les secteurs des droits humains et de l'humanitaire en travaillant pour des ONG dans le milieu universitaire et au sein des Nations Unies. Parallèlement à son mandat d'experte indépendante des Nations Unies pour les droits humains, elle a été directrice du projet mondial sur la liberté d'expression de l'Université de Columbia. Elle a aussi dirigé des enquêtes sur les droits de la personne dans plus de 30 pays et a publié de nombreux articles sur les droits humains, les droits des femmes, la liberté d'expression, les mouvements de réfugiés et la méthodologie des enquêtes sur les droits de la personne. Donc pour nous, c'est vraiment quelqu'un qui devrait être très efficace vu le mandat que se donne Amnesty International. « À l'heure où nous publions notre rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde, hein, on est très content de le voir sortir, et si vous voulez, on va un petit peu rentrer dans le détail ensuite. Donc Agnès Callamard, elle, notre nouvelle secrétaire générale, a pris la parole, et son bilan est sans appel. Donc elle a voulu surtout insister, dès son arrivée, sur la crise du Covid-19, dont nous avons souvent parlé ici, qui crée des inégalités, des problématiques bien sûr compliquées, hein, en termes de solidarité. Et donc, elle a dit d'emblée que certains dirigeants du monde n'ont pas été à la hauteur de la crise du Covid. Alors, quelques phrases types qu'on peut relever dans la préface du rapport qu'elle a rédigé. La pandémie a servi de révélateur, mettant en évidence la médiocrité, les mensonges, l'égoïsme et la fourberie de dirigeants politiques de la planète. Autre réflexion, comment se fait-il qu'une fois de plus, en l'occurrence sous les coups d'une pandémie, le fonctionnement de l'économie mondiale soit tel que ce sont celles et ceux qui ont le moins qui donnent le plus ? Troisième réflexion, la pandémie a éclairé d'une lumière crue l'inaptitude de notre monde à collaborer efficacement et équitablement lorsque survient un événement peu probable, mais aux répercussions majeures à l'échelle planétaire. Enfin, 2020, elle dit, ces 366 jours marqués par l'égoïsme meurtrier, la lâcheté, la médiocrité et des échecs aux ramifications toxiques entre xénophobie et haine raciste. Et enfin, en 2020, l'impulsion n'est pas venue des puissants, des privilégiés ou des profiteurs. Elle est venue des innombrables personnes qui ont manifesté pour réclamer un changement. Donc voilà un petit peu sa carte de visite, je dirais, à travers ces quelques réflexions. L'année 2020, je dirais, par rapport au rapport, nous a une fois de plus rappelé un certain nombre de leçons dont nous refusons de tenir compte pour le plus grand péril des générations à venir. L'interdépendance de la famille humaine, l'universalité de ce que nous, les peuples, exigeons de la part de la gouvernance en temps de crise, et le fait que notre avenir est indissociable de celui que nous façonnons pour notre planète. Elle nous a rappelé, en d'autres termes, l'essence même des droits humains. Aurons-nous l'audace de voir ce qu'il convient de faire et le courage de passer à l'action à l'échelle et au rythme nécessaire ? La question est posée. Alors ce rapport 2021 des droits humains diffusé par Amnesty International il y a très peu de temps, nous avons choisi, nous, Amnesty Albi, de porter notre regard essentiellement sur la situation en France. Bien, voilà. Donc, les réflexions qu'on peut faire à travers ce rapport, c'est tout d'abord que les mesures prises par le gouvernement français face à la pandémie de Covid-19 ont soulevé quand même de nombreuses préoccupations en matière de droits humains. Des mesures prises pour des raisons a priori sanitaires, mais qui ont aussi entraîné un usage excessif de la force par la police, menacé le droit à la liberté de réunion pacifique, ainsi que les droits des migrants et demandeurs d'asile. À l'heure du bilan sur la situation des droits humains dans le monde en 2020, nous allons donc examiner ici, entre nous, et vous en faire part, le cas de la France. Rappelons que la France est analysée à travers le même prisme que les autres, celui du respect du droit international des droits humains. C'est-à-dire que la France, elle a droit à ces 3-4 pages, 5 pages, dans le rapport assez épais que j'ai sous les yeux, là, qui traite de tous les pays du monde. Voilà. Donc, en gros, je dirais qu'il y a une bonne demi-douzaine de points sur lesquels, finalement, on va essayer un petit peu de trier l'information. Pascal, je te laisse la parole pour le premier point.
Oui, le premier point qui n'est pas des moindres, le recours excessif à la force et l'impunité. Donc tout au long de l'année, des cas de recours excessif à la force par les forces de l'ordre ont été signalés. On se souvient de la mort de Cédric Chouviat, qui en est un tragique exemple. Rappelons que ce livreur de 42 ans est décédé en janvier 2020, après un contrôle routier au cours duquel les policiers lui ont fait subir une clé d'étranglement. Ouais. À la suite de ce décès, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'interdiction de l'utilisation de la technique de l'étranglement juste avant de revenir sur sa décision.
Bon, étranglons.
Voilà.
Ouais. L'application des mesures prises face à la pandémie de Covid-19 a révélé un peu plus au grand jour un usage illégal récurrent de la force par la police française, en particulier dans les zones urbaines défavorisées et peuplées majoritairement de personnes issues de minorités ethniques. Nous avons recueilli des informations sur ce type de pratique en mars et avril 2020 en France métropolitaine. Dans certains de ces cas, les fonctionnaires de police ont également tenu des propos racistes ou homophobes.
En outre, en septembre 2020, le ministre de l'Intérieur rendait public un nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Loin de privilégier le dialogue et les méthodes de désescalade, cette stratégie restait axée sur le recours à la force, y compris l'utilisation d'armes et de techniques dangereuses.
On peut également noter qu'il n'existe toujours pas de mécanisme indépendant chargé d'enquêter sur les cas d'allégations de manquement de la part des forces de l'ordre. Très peu de membres des forces de l'ordre ont fait l'objet de poursuites judiciaires à la suite des allégations d'usage excessif de la force pendant les manifestations de 2018-2019. Et en juin 2020, dans le cadre d'une de ces affaires, un policier qui avait tiré une balle en caoutchouc dans le visage d'une manifestante en 2018 a été condamné à une simple amende. En outre, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture en novembre 2020 une proposition de loi rendant passible de sanctions pénales la diffusion d'images de membres des forces de l'ordre considérés comme portant atteinte à leur intégrité physique ou psychique, ce qui entraverait la possibilité de rendre publiques des images de violences policières. À suivre.
Des mesures abusives prises par l'État. En juin 2020, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à allonger les mesures de contrôle administratif figurant dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, loi SILT, S-I-L-T, qui devait expirer à la fin de l'année. Le Parlement a approuvé en décembre la prolongation des mesures jusqu'au 31 juillet 2021. Cet ordre. En octobre et novembre 2020, à la suite de l'assassinat de M. Samuel Paty, l'enseignant qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet, le gouvernement a adopté une série de mesures de lutte contre le terrorisme qui soulevaient un certain nombre de préoccupations en matière de droits humains.
Il a en particulier dissous plusieurs organisations, une mesure extrême qui ne peut être justifiée que dans des circonstances très limitées, par exemple si l'organisation en question constitue un danger manifeste et imminent pour la sécurité nationale ou l'ordre public. Il a également expulsé au moins 66 personnes de nationalité étrangère sans procéder à une évaluation en bonne et due forme des véritables risques de torture auxquels elles seraient exposées dans leur pays d'origine.
Voilà, nous en verrons un cas d'ailleurs à la fin de l'émission. Autre point très important, le droit de manifester qui a été manifestement entravé. Alors, dans un objectif de protection de la santé publique, le gouvernement a imposé le 11 mai 2020 une interdiction générale de manifester. Le Conseil d'État a suspendu cette interdiction le 13 juin. Néanmoins, des centaines de manifestants ont reçu des amendes pour avoir participé à des rassemblements sur la voie publique entre le 11 mai et fin août.
En outre, des manifestants ont, cette année encore, été arrêtés et poursuivis pour des infractions définies en des termes vagues et ouvrant donc la voie à l'arbitraire, comme l'outrage à agent, le non-respect des obligations de déclaration préalable ou la participation à un groupement en vue de la préparation de violence, qui ne veut pas dire grand-chose.
Oui, c'était très vague.
Alors, un autre point concernant les défenseurs des droits humains. Alors, il y a eu en 2020 des avancées et des régressions. En juin 2020, les autorités ont enfin décidé d'engager des poursuites contre trois policiers, dont l'un avait agressé Tom Siotkowski. Il s'agit d'un défenseur britannique des droits humains qui recueillait des informations sur les violences policières commises contre des personnes réfugiées à Calais en 2018.
Par ailleurs, les tribunaux ont relaxé Pierre-Alain Mannoni, Cédric Héroux et Martine Landry. Trois défenseurs des droits humains qui étaient poursuivis depuis plusieurs années pour avoir aidé ou hébergé des demandeurs ou demandeuses d'asile.
Dans le même temps, pendant le confinement, les défenseurs des droits humains qui apportaient une aide humanitaire aux personnes réfugiées et migrantes à Calais et à Grande-Synthe ont quant à eux continué de subir des actes de harcèlement et d'intimidation. À l'instigation du ministre de l'Intérieur, le préfet du Pas-de-Calais a ainsi pris en septembre 2020 un arrêté interdisant la distribution de nourriture et de boissons aux migrants dans une grande partie de la ville de Calais. Si je faisais de l'ironie, je dirais que ce nom de lire, c'est le « en même temps ».
Oui, alors, effectivement.
Patricia, le point suivant.
Personnes migrantes et réfugiées, plus fragiles que jamais. La pandémie a fait surgir pour les personnes migrantes, en particulier celles qui vivaient dans des campements de fortune à Paris et dans le nord de la France, de nouveaux obstacles à l'accès à leurs droits économiques et sociaux. Le gouvernement a également suspendu le traitement de toutes les demandes d'asile pendant le confinement.
Alors à Paris et dans le nord de la France, les personnes migrantes et réfugiées qui vivaient dans des campements de fortune ont cette année encore fait l'objet d'évacuations forcées récurrentes, y compris pendant le confinement, sans qu'une autre solution d'hébergement ne leur soit proposée. Les mesures nécessaires pour un accès aux soins effectifs et systématiques n'ont pas non plus été mises en œuvre. À Calais, les forces de l'ordre ont régulièrement soumis des personnes migrantes et réfugiées à des actes de harcèlement et à un usage excessif de la force.
Sur la frontière franco-italienne, la police aux frontières a continué de refouler les personnes migrantes et réfugiées vers l'Italie. En outre, des migrants ont continué d'être placés en rétention administrative, au mépris de la protection de leur santé pendant la pandémie. Les mineurs non accompagnés continuaient de se heurter à de nouveaux obstacles pour bénéficier d'une prise en charge et risquaient toujours d'être renvoyés vers l'Italie.
Tout à fait.
Notons des victoires malgré tout. Martine Landry, militante d'Amnesty International France, injustement accusée d'avoir facilité en 2017 le passage à la frontière franco-italienne, justement, de deux jeunes migrants, a obtenu une relaxe définitive. Par ailleurs, le Conseil d'État a conclu en juin 2020 que le renvoi vers l'Italie d'une femme et de son enfant sans que leur demande d'asile ait été enregistrée et examinée constituait une violation du droit de demander et de recevoir l'asile.
C'est évident. Alors, un point que nous avons souvent traité ici dans ces émissions, ce sont les ventes illégales d'armes et qui ont continué tout au long de ces deux dernières années. Le gouvernement français a continué de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, malgré la forte probabilité qu'elles soient utilisées pour commettre des violations des droits humains, en étant utilisées contre des populations civiles dans le cadre du conflit au Yémen.
La France a manqué à son obligation de fournir des informations détaillées, complètes et à jour sur les transferts d'armes autorisés par le Premier ministre. Le 8 août 2020, les forces de sécurité libanaises ont utilisé du matériel de maintien de l'ordre français lors de leur intervention contre des manifestants, au cours desquels plus de 230 personnes ont été blessées.
Ouais.
Non-respect de la loi
sur le devoir de vigilance.
De nombreuses entreprises ne respectaient toujours pas la loi de 2017 relative au devoir de vigilance qui imposait aux multinationales françaises d'établir un plan afin d'identifier et de prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement. Sur quelque 200 groupes concernés, je me souviens de ça, 72 seulement ont publié un plan établissant les modalités prévues pour garantir le respect des droits humains dans leur chaîne de valeur. À la fin de l'année 2020, les autorités n'avaient toujours pas proposé de mesures en vue de la mise en place d'un système de contrôle du respect de la loi. Oui, c'est sur le travail des gens, enfin des conditions.
Voilà, alors... Vous noterez que tous ces points-là essentiels ont été débattus ici tout au long de l'année parce qu'effectivement les événements étaient ce qu'ils étaient et ça doit faire bien deux ans de suite consécutifs qu'on parle des ventes d'armes, le droit de manifester, on sait les lois qui ont été aujourd'hui proposées pour avancer négativement dans ce domaine, le recours à la force... Etc. Les personnes migrantes qui sont harcelées constamment avec des espèces de petits allers-retours qui ne nous conviennent pas du tout. Voilà, alors c'est exactement, enfin en gros, c'est une synthèse, mais c'est ce que vous retrouverez en lisant la partie France dans le rapport d'Amnesty International. Donc la France est vue comme un pays comme les autres, donc avec une analyse objective a priori, en tout cas sur les critères d'Amnesty International, sur les valeurs d'Amnesty International. Voilà, donc je vous le dis encore, pour lire l'intégralité donc, de ce que l'on dit de la France dans... ce rapport, rendez-vous page 212 du rapport. Alors, vous allez sur le site amnesty.fr, vous allez trouver, vous pouvez lire carrément les pages sur le site, mais vous pouvez aller directement à la page 212 et vous verrez que vous retrouverez l'essentiel, enfin, vous retrouverez plus largement ce que l'on a dit ici. Voilà, merci, chers auditeurs.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Albit 16 avec les chroniques d'Amnesty et on écoute tout de suite une pause musicale avec la rencontre entre Tiken Jaffa Coli et Bernard Lavillier. Question de Pau.
Arrêté une nuit où le froid jouait du rasoir, rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard. Question de peau, question de veine et de couleur.
Je me suis planqué comme un renard. Train d'atterrissage d'un avion dans le conteneur d'un bagnard. Dans dans la chambre arrière d'un camion. Question de peau, question de veine et de couleur.
Question de trop, question de chance, marge d'erreur.
Arrivé au fond des corridors,
travailler au noir jusqu'à la mort.
Clandestin,
traqué par la police.
Silencieux, au bord du précipice. C'est à fleur de peau qu'on explique la forêt sanglante et l'horreur.
Si Jacques Delors, c'est l'Afrique, vaut mieux annoncer la couleur.
Question de peau, question de veine et de malheur.
Musique et musiciens d'Afrique, faut voir l'immigration des Blancs. On peut crever, c'est très ethnique, avec l'extrême onction des grands.
Question de peau, question de veine et de couleur.
Question de trop, question de chance, marge d'erreur.
Arrivé au fond des corridors,
travailler au noir jusqu'à la mort.
Clandestin, traqué par la police.
Silencieux, au bord du précipice.
Arrivé au fond des corridors,
travailler au noir jusqu'à la mort.
Clandestin, traqué par la police. Silencieux.
Eh bien, nous sommes contents d'avoir entendu cette chanson qui doit avoir 25 ans à peu près, mais qui nous permet de faire une synthèse entre migration, couleur de peau, difficultés rencontrées. Voilà, donc merci à Bernard Lavillier et Tijan Facoli d'avoir créé cette chanson. Alors, on va passer à la Russie, puisque malheureusement, à l'heure où nous enregistrons cette émission, vous le savez certainement, chers auditeurs, qui êtes toujours avec les membres du groupe d'Amnesty International et qui font leur émission mensuelle, les chroniques amnestiennes. Donc à l'heure où nous parlons, la santé d'Alexeï Navalny se dégrade, et il est très mal, d'après ce que l'on peut savoir, et il est urgent d'agir pour qu'il ait accès à des soins et qu'il soit libéré.
Alors rappelons sa situation. Le 17 janvier, Alexeï Navalny est arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Moscou. Il revenait d'Allemagne, où il avait été hospitalisé plusieurs mois suite à un empoisonnement. Le 2 février, il est condamné à une peine de 2 ans et demi de prison, une décision arbitraire et motivée politiquement. Le pouvoir russe n'a cherché qu'une chose, faire taire une voix critique, Alexeï Navalny étant l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine et un militant anticorruption. Depuis qu'il est en prison, nous sommes très inquiets pour sa santé. Douleur dans le dos, insensibilité dans les jambes, fièvre, privation de sommeil. Plus les jours passent, plus son état de santé se dégrade. Les autorités pénitentiaires russes refusent de lui fournir une assistance médicale appropriée. Alexeï Navalny a entamé une grève de la faim le 31 mars pour protester contre ses conditions de détention. Aujourd'hui, sa vie est à nouveau en danger. Nous devons agir rapidement et continuer ensemble d'exiger sa libération.
Tout à fait. Alors, chers auditeurs, nous vous proposons de reprendre les actions que nous avions proposées déjà il y a, je crois, 2 émissions, 2 mois. Donc, il faut y aller parce que, effectivement, et en plus, à l'heure où nous enregistrons, nous avons eu connaissance des manifestations qui ont eu lieu en Russie, qui ont été, bien sûr, largement réprimées, interdites, etc. Donc, il faut pousser parce que Alexeï Navalny paraît vraiment très, très, très en danger. Alors, 4 actions simples. Envoyer un mail à l'ambassadeur de Russie en France. Bon. Interpeller Vladimir Poutine sur Twitter, agir sur Instagram pour ceux qui aiment ça, et envoyer un courrier à Vladimir Poutine. Alors, sur le site d'Amnesty International, vous allez trouver tout ça plus détaillé. Donc, le mail, en deux minutes, nous vous proposons d'interpeller l'ambassadeur pour exiger l'accès à des soins médicaux adéquats et la libération d'Alexei. Sur Twitter, identique. Donc, vous trouverez sur le site l'adresse qui est @KremlinRussia pour envoyer un tweet. Voilà, Free Navalny. Et sur Instagram, nous vous laisserons faire parce que c'est un peu plus compliqué. Par contre, si vous voulez faire un copier-coller de la lettre que vous trouverez sur le site, il n'y a aucun problème, une lettre détaillée qui s'adresse à Poutine et l'adresse du président est en bas de la lettre. Voilà. Donc un copier-coller de la lettre, un petit timbre dessus, vous l'envoyez. J'ai quelques doutes sur les mails, moi. Donc, je préfère personnellement, et nous, on préfère envoyer une lettre parce que les mails saturés, etc., guéris dans les boîtes aux lettres. Bon, voilà. Donc, par contre, on compte sur vous parce que franchement, la situation se dégrade et là, visiblement, il y a un règlement de compte qui risque d'être malheureusement très, très, très négatif. Voilà, alors une bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit en introduction, un représentant de l'État syrien condamné pour crime contre l'humanité, Patricia.
Pour avoir torturé des manifestants, un membre des forces de sécurité syriennes a été condamné à 4 ans de prison. C'est une victoire historique, c'est le premier.
Ah oui, ça c'est sûr.
Et on n'espère pas le dernier.
Exactement.
À la haute cour régionale de Koblenz, en Allemagne, a prononcé une condamnation à 4 ans et demi de prison contre Eyad Al-Gharib, un membre des forces de sécurité syriennes. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour sa complicité dans la torture de manifestants arrêtés à Damas.
Ce jugement historique est une victoire retentissante pour les dizaines de milliers de personnes rescapées de la torture et victimes de disparitions forcées en Syrie. C'est également une victoire pour les organisations syriennes et internationales défendant les droits humains qui, toutes ensemble, se battent inlassablement en faveur de la vérité et de la justice depuis des années. Ces organisations ont contribué à faire en sorte que ces crimes soient recensés et que des dossiers d'accusation soient constitués. Sans elles, ce procès n'aurait pas été possible.
Tout à fait. Coupable de crimes contre l'humanité. En effet, en février 2020, Anwar Aslan et Eyad El-Gharib, d'anciens représentants du gouvernement syrien, ont été arrêtés par les polices allemandes et françaises. Ils ont tous deux été inculpés de crimes contre l'humanité en relation avec la torture de personnes détenues à la branche 251 de la Sûreté de l'État ou branche Al-Khatib à Damas. Ça fait une décennie qu'Amnesty International recueille des informations sur le recours systématique à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements dans des lieux de détention en Syrie, notamment Al-Khatib. Ces violations, commises dans le contexte de la guerre civile qui ravage le pays, constituent des crimes de guerre et parce qu'elles relèvent d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile, sont des crimes contre l'humanité.
Les responsables, donc, rendront des comptes. Cette condamnation montre clairement au gouvernement syrien que les personnes responsables de ces terribles violations seront traduites en justice. Ce jugement survient près de 10 ans après les premières manifestations pacifiques en Syrie, années durant lesquelles les autorités ont déployé toute leur cruauté envers les citoyens. Nous exhortons d'autres États à suivre l'exemple de l'Allemagne en enquêtant sur les individus soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre et d'autres crimes de droit international en Syrie et, le cas échéant, en ouvrant des poursuites contre ces personnes devant leurs tribunaux nationaux en vertu du principe de compétence universelle.
Ça, c'est bien.
Amnesty International demande par ailleurs une nouvelle fois au Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir de toute urgence la Cour pénale internationale concernant la situation en Syrie, afin de garantir que les auteurs présumés, quel que soit leur camp, y compris les plus hauts responsables, hauts gradés et commandants, s'expliquent devant la justice.
Et oui, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vais en profiter, nous allons en profiter pour faire rapidement le point de 10 ans de conflit en Syrie. Il n'y a toujours pas de justice, puisque bien que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU disposent du pouvoir et du mandat requis pour aider les civils en Syrie, eh bien, les forces gouvernementales syriennes et les groupes armés d'opposition, avec le soutien de leurs alliés, ont soumis des millions de civils à des violations de droits humains et restent paralysés. Résultat, une décennie que la population souffre. Le droit de veto au Conseil de sécurité, la Russie et la Chine ont opposé à 15 reprises au moins leur veto à des résolutions du Conseil de sécurité. Voilà, donc impossible de travailler sur les violations commises en Syrie. C'est coutumier de l'attitude de la Russie et de la Chine. L'intérêt politique est passé avant l'intérêt humain. La Russie, alors tout comme l'Iran, la Turquie, ont apporté leur soutien aux parties du conflit responsables d'atrocités en Syrie. Donc, ouais, tout le monde s'y est mis. Conclusion, nous voilà au bout de 10 ans de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au moins 5 millions de personnes, nous le rappelons, ont fui la Syrie. La plupart vers des pays voisins où elles sont en butte aux restrictions pour accéder à des services ou obtenir une aide. Et beaucoup se retrouvent dans le dénuement. Sans justice, le cycle d'effusion de sang et de souffrance en Syrie n'est pas prêt de s'arrêter. Une poignée d'États montre le chemin en prenant des mesures cruciales vers la justice. Il est temps que d'autres leur emboîtent le pas. J'ajouterai que j'ai lu aujourd'hui simplement dans Le Monde là, qu'enfin, l'Organisation contre les armes chimiques, qui dépend de l'ONU, avait validé le fait, enfin, que la Syrie avait utilisé des armes chimiques dans les situations qu'on a connues, que les médias ont relatées tout au long de ces années. Bah, aux grandes dames, d'ailleurs, de la Russie, semble-t-il. Je n'ai pas lu tout l'article, mais c'est à peu près cette réaction.
C'est ça.
Voilà. Voilà. Monsieur. Bien. On va donc terminer sur cette affaire de réfugié tchétchène qui a été expulsé illégalement de la France vers la Russie. Voilà, donc on sait ce qu'il attend. Donc, Patricia, parle-nous-en, puisque je vois que...
Les craintes de persécution en Russie de Magomed Kadayev, réfugié tchétchène, ont été reconnues par la justice française. Pourtant, le 9 avril, les autorités l'ont renvoyé à Moscou. Il faudra agir rapidement pour exiger d'Emmanuel Macron son rapatriement immédiat. Ce père de famille est en grand danger. Le 13 avril 2021, nous avons appris que M. Kadayev était vivant. Nous n'avons aucune information sur sa santé mentale ou physique. Une chose est sûre, il a plus que jamais besoin de notre mobilisation. Dans la matinée du 9 avril 2021, la France a renvoyé illégalement un réfugié tchétchène en Russie, alors même qu'à 3 reprises, la justice française avait explicitement interdit son renvoi, car en Russie, il risque sa vie. On ne renvoie pas les gens si leur vie est en danger.
Voilà, alors je ne sais pas quelles sont les motivations qui ont poussé le gouvernement français à le renvoyer quand même, mais ce que nous savons, c'est que ceci est illégal. Ouais. Alors nous suivons l'évolution de la situation et savons que celle-ci est plus qu'inquiétante. C'est une décision qui a été prise inhumaine et elle est illégale, et en plus d'être inacceptable dans un état de droit. Nos actions ont déjà permis de protéger des réfugiés, nous pouvons y arriver à nouveau, si vous êtes assez nombreux et nombreuses à agir à nos côtés. Oui, c'est déjà arrivé, hein, qu'en assistant vraiment auprès du gouvernement français, on revient en arrière. Donc, nous vous proposons, par mail, sur Twitter, Instagram, d'exiger, ou par lettre, d'exiger du président de la République, Emmanuel Macron, le rapatriement immédiat de Magomed Kadayev en France. Voilà. Donc vous trouverez sur le site un petit texte pour Twitter, un email avec des adresses donc, du cabinet, du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, son conseiller diplomatique également. Donc vous avez un petit copier-coller à faire par rapport à une proposition de lettre, comme pour Vladimir Poutine tout à l'heure. Donc par email, là par contre, ça peut marcher.
Par mail, on est
quand même en France. Donc oui, je pense que si on envoie ce mail aux gens dont j'ai parlé, directeur de cabinet et conseiller diplomatique, ça va leur arriver. Voilà, donc la lettre fait une demi-page, faites un copier-coller, pof, un mail et ça marche. Et si on est nombreux, je pense qu'on peut arriver à quelque chose, sachant quand même que la justice française s'est prononcée contre cette expulsion.
Oui.
Voilà. Notre émission touche à sa fin, chers auditeurs. Comme vous le savez, la situation sanitaire ne facilite pas les actions militantes. Mais vous pouvez intervenir sur les situations que nous venons de vous présenter. Et bien d'autres encore en signant nos pétitions en ligne sur le site amnesty.fr. Oui, je vous rappelais que les 10 jours pour signer, nous en avons abondamment parlé, nous n'avons pas pu faire de manifestations locales, mais vous avez toujours, toujours ces pétitions en ligne, et donc allez les signer nombreux. La foire annuelle Biocibel devrait se tenir normalement à Groyer le week-end de Pentecôte, pour l'instant c'est OK, donc le week-end de Pentecôte, dimanche, lundi Pentecôte, 23-24 mai si je ne me trompe pas. Nous serons présents et vous attendons à notre stand pour échanger et signer nos pétitions. Enfin, le ciné pourrait reprendre.
Oui,
en particulier.
Ce serait bien.
Bon, il semble que enfin le film, donc Un pays si sage.
Un pays qui se tient sage.
Un pays qui se tient sage, pardon, est programmé le 25 juin à Gaillac. Alors, oui. Il devrait être programmé dans la foulée à Albi, mais bon. Attendons encore un peu, voilà,
c'est
attendons
vrai qu'on
les
a
normes.
Fait plusieurs tentatives, hein.
Voilà, ouais,
on était prêts.
On l'a annulé trois fois, hein. Ouais. Bon, voilà. Voilà, alors les droits humains doivent progresser, il faut continuer à agir avec Amnesty International pour faire pression partout dans le monde sur les autorités pour que cessent les atteintes aux droits et libertés. Si vous souhaitez agir avec le groupe Amnesty International d'Albi, envoyez-nous un courriel sur notre messagerie albi@amnestyfrance.fr et nous prendrons contact avec vous. Merci de nous avoir écoutés et de nous faire part de vos commentaires et suggestions à cette même adresse. Et n'oubliez pas,
vos signatures ont du pouvoir.
Thank you.